Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous de l'économie sur RFI. L'économie, ce sont des activités humaines, des échanges de biens, de services, de monnaie soumis à des règles, des lois fixées elles-mêmes par les dirigeants politiques, eux-mêmes désignés par des citoyens et des citoyennes, vous et moi. Bref, si je vous parle de ça, c'est que nous sommes dans une année d'élections majeures et à répétition, la dernière en date au Sénégal, accouchant d'un nouveau projet aux conséquences économiques potentiellement internationales. D'autres scrutins d'importance nous attendent en 2024, les élections américaines en novembre et puis, dès le mois de juin, les élections européennes. Les 27 vont désigner leurs parlementaires et par conséquent, les priorités pour ces prochaines années. Écho d'ici, écho d'ailleurs prend un peu d'avance et va décrypter, dès aujourd'hui, les enjeux en termes de croissance, d'investissement, de budget, de politique énergétique, de politique migratoire, de coopération internationale. Tous ces sujets, ils sont au cœur d'un événement à Paris, en ce mois d'avril, le printemps de l'économie, 12e édition, dans le magnifique bâtiment du Conseil économique, sociale et environnementale. Ça tombe bien, ce dernier mot, environnemental, nous intéresse particulièrement. Pour en discuter, trois expertes de l'économie européenne à mes côtés en studio. Je commence par vous, Dorothée Rouzet. Bonjour.
Bonjour.
Chef économiste de la Direction générale du Trésor français, diplômée de l'École normale supérieure, docteur en économie de l'Université de Harvard. Vous avez aussi travaillé plusieurs années pour l'OCDE, l'Organisation pour la coopération économique et le développement. Bienvenue également à Pamina Koenig.
Bonjour.
Professeur à l'École d'économie de Paris, vous êtes spécialiste du commerce international et des politiques commerciales. Et enfin, bonjour à Ikram Bouptan.
Bonjour.
Chercheur également à l'École d'économie de Paris, spécialiste des questions liées aux migrations internationales. Énormément donc de thématiques liées les unes aux autres, alors que l'économie européenne subit une concurrence mondiale de plus en plus féroce. Certains la disent même menacée de décrochage. Voilà notre sujet. Partagez, commentez sur nos réseaux sociaux et notamment notre page Facebook RFI Eco, RFI ECO. Bonne émission à toutes et à tous. L'Ode à la joie, 9e symphonie de Beethoven, l'hymne européen version métal, hymne qui célèbre les idéaux de liberté, de paix et de solidarité que l'Europe est censée incarner. La paix en danger, c'est le moins que l'on puisse dire, la liberté et la solidarité, pas systématique selon le pays dans lequel on se trouve. À l'occasion de ce scrutin des 6 et 9 juin, l'Europe se questionne sur elle-même et se demande quelle place elle va trouver dans ce monde en plein mouvement, y compris d'un point de vue économique. Avant d'en parler avec nos invités, partons de quelques données statistiques d'une situation pour le moins incertaine. Les mots du commissaire européen aux affaires économiques, Paolo Gentiloni, c'était très récemment chez nos confrères de France Info.
On a eu 11 pays en 2023, qui ont eu une croissance négative. Et c'est beaucoup. Et entre ces pays, il y a aussi des très grandes économies. Là. Entre eux, la plus grande économie européenne. Les raisons de la crise sont beaucoup liées au modèle énergétique et au modèle d'exportation. Alors, c'est toute l'économie européenne qui est maintenant faible, mais nous sommes plutôt optimistes pour la deuxième partie de l'année. Si on regarde d'un côté plutôt optimiste, on peut dire qu'on a évité la récession. On a su découpler du gaz russe très rapidement, en quelques mois, que l'inflation est en train de baisser et que le marché du travail est en bonne forme dans tous les pays européens. Ce que nous estimons est que dans la deuxième partie de l'année, on aura une reprise des consommations et une activité économique plus forte et l'année prochaine encore plus forte.
Des raisons d'espérer pour l'Europe, nous dit le commissaire Gentiloni. Dorothée Rouzet, vous me direz c'est son rôle, mais a-t-il raison d'être aussi optimiste ?
Oui, je pense. En tout cas, c'est un diagnostic que je partage largement. On a connu l'année dernière en particulier, et depuis la succession de chocs des dernières années, une période un peu difficile en Europe, plus particulièrement en Allemagne d'ailleurs et moins en France, avec le choc énergétique qui a beaucoup pesé sur l'industrie, mais aussi sur le pouvoir d'achat. avec aussi une Allemagne qui est très exposée à l'exportation et donc au ralentissement chinois. Donc on a eu un trou d'air en fin d'année dans un certain nombre d'économies qui se poursuit, qui nous donne moins d'élan pour cette année aussi. Donc on démarre l'année avec une croissance assez faible. Mais pour la suite de l'année, il y a des raisons d'espérer, et notamment, comme le disait d'ailleurs le commissaire Gentiloni, du côté de la consommation, parce qu'on a des salaires qui accélèrent, parce qu'on a une inflation qui ralentit, et ça, c'est bon pour la consommation, c'est bon pour la confiance des ménages, et on voit un vrai relais de croissance de ce côté-là.
Ceux qui disent que l'Europe est en décrochage économique face aux autres grandes puissances, l'Europe plus exposée que les États-Unis, par exemple, à cette question des exportations vis-à-vis de la Chine ?
En partie, mais je pense que quand on parle de décrochage, alors il y a beaucoup de chiffres qui circulent sur le décrochage entre l'Europe et les États-Unis qu'il faut relativiser. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on prend une perspective plus longue sur 20 ans, donc par exemple depuis 2000, en moyenne, les États-Unis ont une croissance annuelle de près de 2% et l'Europe un peu plus de 1%. Donc année après année, le fossé se creuse. Et quand on regarde quels sont les facteurs de ce décrochage, c'est pas tellement... Alors, on pense souvent à la démographie, en fait. Effectivement, l'Europe a une démographie moins dynamique, mais elle l'a compensée sur ces 20 ans par un taux d'activité plus important. C'est-à-dire que, oui, on a moins de démographie, mais sur cette période, parmi les gens qui sont en âge de travailler, il y en a une proportion de plus en plus importante qui travaille en Europe. Et ça, ça a plus ou moins compensé l'effet sur la croissance de la démographie. Par contre, là où on a un vrai déficit par rapport aux États-Unis, c'est du côté de la productivité et plus concrètement du côté de l'investissement, à la fois en capital physique, en innovation, en recherche et développement privé. Et ça, je dirais, année après année, là aussi, ça s'aggrave et ça contribue au décrochage. Et c'est là qu'il faut chercher les remèdes côté européen.
On va parler démographie dans un instant avec Ekram Bouptan. D'abord, Pamina Koenig, l'Europe victime de ce modèle basé sur les exportations, c'est ce qu'on entendait dans les propos du commissaire européen.
Je pense que l'Europe a une force à jouer parce qu'elle est en ce moment sortie, disons, apaisée des dernières relations commerciales de ces dernières années. On peut remarquer, par exemple, sur les États-Unis, que la guerre commerciale États-Unis-Union européenne s'est arrêtée parce que des deux côtés, depuis les tarifs douaniers sur l'acier, sur l'aluminium mis en place par Donald Trump, et les réactions de l'Union européenne, on a décidé, à partir du moment où Joe Biden est arrivé au pouvoir, de les mettre en pause et de les reconsidérer et de discuter de manière tout à fait adulte. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des Américains, l'Europe s'affirme parce qu'elle conclut des accords de commerce nouveaux, effectivement, côté asiatique avec le Japon, un nouvel accord de commerce, et elle a des relations commerciales approfondies avec certains acteurs. Les nouveaux accords de commerce qui sont signés sont des accords profonds, dans lesquels on ne fait pas juste baisser les droits de douane, mais dans lesquels on est plus exigeant aussi par rapport aux façons de produire les biens, dans la mesure où on peut bien sûr le faire. Et encore une fois, l'Europe est protégée à partir du moment où voilà, il y existe un règlement sur la sécurité des produits qui sont consommés sur le sol européen et dans le marché unique.
Ça ne se fait pas sans critique. On voit les débats en ce moment sur le CETA, sur l'accord avec le Mercosur.
Absolument, on voit les débats et c'est bien qu'il y ait un débat parce que ça donne la possibilité d'expliquer en fait que l'Europe est là pour protéger ses consommateurs. L'Europe est un grand marché. Alors à la fois ça crée une richesse parce que justement l'Europe a créé des normes dans un règlement de 2001 qui est justement en train d'être renouvelé et ça sera signé à la fin de l'année 2024. Donc l'Europe a créé des normes et ces normes en fait s'exportent. Parce que comme c'est un grand marché, justement, on a de Brussels effect, c'est-à-dire l'effet Bruxelles, le fait que bien, les producteurs dans le monde ont intérêt à se mettre à jour et à fabriquer des biens qui sont sur les normes européennes.
Ekram Bouptan, cette démographie moins dynamique en Europe qu'ailleurs, on en a parlé, est-ce que c'est un des facteurs des difficultés de la croissance européenne ?
Comme en fait ça a été dit, c'est-à-dire qu'effectivement l'ajustement des comportements d'activité a fait que l'effet à court terme et à moyen terme était amorti de cette démographie qui est moins dynamique, mais elle commence à peser. Elle commence à peser notamment via les besoins de marché du travail qui ne sont pas satisfaits. Et on sait très bien que ces besoins de marché du travail qui ne sont pas satisfaits à toute échelle de compétences peuvent influencer les anticipations des entreprises pour des décisions d'investissement dans l'avenir. Et donc, ça pèse sur la croissance, ça peut peser sur la croissance à moyen terme et à long terme. Après, le sujet effectivement qu'on a en Europe, c'est effectivement de quelle Europe on veut dans les années à venir. Est-ce que notre modèle devrait être le modèle américain avec une augmentation du niveau de vie et un creusement des inégalités? Ou est-ce qu'on veut un modèle qui est notre modèle européen dans lequel on a un système de protection sociale qui est beaucoup plus large et éventuellement des inégalités qui sont moins fortes, mais dans lequel effectivement il faut qu'on trouve un équilibre entre une croissance démographique qui soutient une économie avec une croissance soutenable.
Un marché du travail moins flexible qu'aux États-Unis. C'est parfois ce qui est mis en avant chez ceux qui disent ben voilà pourquoi l'Europe ne va pas aussi vite que les autres.
Généralement, le sujet pourquoi l'Europe ne va pas aussi vite que les autres, c'est un sujet quand même assez complexe, multifactoriel. Donc je ne pense pas que l'argument marché du travail seul. On a des pays européens qui ont des marchés du travail qui sont beaucoup plus flexibles. Donc il ne faut pas transposer l'exemple français en fait à l'ensemble des pays européens. Donc oui, on a un marché du travail qui est moins flexible que les Américains, mais on a aussi un marché du travail qui est dynamique. On a des entreprises aussi qui sont extrêmement dynamiques en Europe. Et lorsqu'on regarde les enquêtes qui sont faites auprès des entreprises, j'ai l'impression quand même que le premier facteur qui est évoqué, c'est plutôt des questions de besoin de compétences qu'on n'arrive pas à satisfaire.
Donc, recours à l'immigration,
entre autres,
une des solutions.
Entre autres, parce qu'effectivement, c'est un sujet sur lequel il faudrait à un moment donné avoir une réflexion plus pragmatique. Bien sûr, la question de l'immigration n'est pas une question qu'on peut aborder que via le sujet économique, via les besoins du marché du travail. Mais il faut reconnaître qu'on est dans un continent qui est vieillissant et que si on veut maintenir notre niveau de vie et si on veut avoir un niveau de croissance, on aura besoin de l'apport de travailleurs immigrés et on aura besoin effectivement d'investir plus dans des politiques d'intégration pour tirer le meilleur profit de l'immigration qu'on reçoit déjà en Europe.
L'un des paramètres de ces difficultés économiques européennes, c'est la question budgétaire. On va prendre l'exemple de la France qui creuse son déficit, 5,5% du produit intérieur brut en 2023. Nous devons faire des choix, a dit le ministre de l'économie Bruno Le Maire sur RTL.
La France est à la croisée des chemins. Soit on choisit la voie de la facilité, on laisse filer le déficit, on laisse filer la dette, on accumule la charge de la dette. Et je pense que ça se traduira par un déclassement économique et politique français. Soit nous choisissons ce que j'appelle la voie française, on regarde avec lucidité la situation, on maintient l'objectif de retour sous les 3% en 2027 et on en tire les conséquences en termes d'économie sur toutes les dépenses, État, dépenses sociales et collectivités locales. C'est ce que je propose.
La dette, c'est le déclassement. La voie française, c'est de faire des économies. Dorothée Rouzet.
Je pense que la voie française, je ne sais pas, mais la nécessité du moment, c'est de trouver le juste équilibre entre faire des économies et faire les investissements dont on a besoin. Et c'est une ligne de crête qui n'est pas évidente, qui consiste effectivement, qui demande pour la France, qui a un des niveaux de déficit les plus élevés de l'Union européenne ou de la zone euro, maintenant, de regarder de près les dépenses, l'efficacité de la dépense, est-ce qu'on peut faire aussi bien avec moins, ou est-ce qu'on peut faire mieux avec autant, et en même temps, de faire de la place pour les investissements dont on a besoin dans la transition écologique, dans la défense, dans la santé. Et donc, trouver ce juste équilibre, ça veut dire, oui, réduire les dépenses et réduire le déficit, pas brutalement d'un coup, parce que dans ce cas-là, à la fois, en général, quand on doit couper très brutalement et d'un coup, on n'arrive pas à ne pas couper les investissements d'avenir, et aussi parce que ça a un effet sur la croissance. Donc ça veut dire un ajustement qui doit être assez graduel, mais crédible quand même. Le retour à 3% d'ici 2027, d'une part, ça correspond à nos engagements européens en termes de crédibilité, c'est important. D'autre part, ça a ce mérite de lisser l'effort un petit peu sur plusieurs années. Et c'était un peu le sens aussi de la réforme des règles budgétaires européennes qui a été le fruit d'une longue négociation et d'un long compromis qui a pris toute l'année dernière, de trouver cet équilibre dans les règles européennes entre le besoin d'assainissement des comptes publics et le besoin de réforme et d'investissement.
Le credo actuel, en tout cas en France, c'est de ne pas augmenter les impôts. En tout cas, c'est le message, peut-être avant les élections.
Vous savez, on a déjà des impôts qui sont très élevés en France en moyenne. Et là aussi, on est parmi les champions du monde. Donc effectivement, on peut se dire qu'on a sans doute des choses à aller chercher du côté de la dépense avant de commencer à augmenter les impôts.
Ekram Boubtan, l'extrême droite en France, par exemple, dit si on veut faire des économies, c'est peut-être du côté de l'immigration qu'il faut aller chercher.
Bah ça, c'est un peu l'histoire de l'extrême droite avec les questions migratoires. Et surtout, ce n'est pas nécessairement que l'extrême droite, c'est généralement ces partis populistes que face à des difficultés réelles, ils ont toujours une solution magique. Mmh. Et généralement, la solution magique, c'est stigmatiser une partie de la population. Et ça tombe généralement sur l'immigration. Donc non, effectivement, réduire l'immigration ou l'immigration zéro n'a jamais été une solution pour résoudre les problèmes sur le marché du travail et réduire le chômage, comme ce n'est pas une solution pour assainir nos finances publiques ou réduire nos dépenses. Cette lecture, effectivement, de la question migratoire, elle se focalise sur les dépenses qui sont consacrées aux politiques migratoires. Donc ces dépenses sont nécessaires, mais laisse de côté toutes les contributions, en fait, les recettes, cotisations sociales et recettes fiscales et contributions économiques de l'immigration. Et donc, ce que nous disent les études économiques qui sont faites sur le sujet, que lorsqu'on même on a une approche purement comptable, sans qu'on prenne en considération les effets de bouclage macroéconomique, l'immigration est plutôt neutre sur les budgets des pays européens. Donc la réponse est non, ce n'est pas une solution en fait. Ce n'est ni une solution d'augmenter l'immigration pour résoudre nos problèmes de finances publiques et ce n'est pas nécessairement une solution de la réduire pour résoudre ces problèmes-là.
Réponse claire et nette d'Ekrem Boubtan. Voilà donc pour le tableau général, l'économie européenne à la croisée des chemins. Voyons maintenant avec nos invités Dorothée Rouzet, Pamina Koenig, Ekrem Boubtan, ce qu'elles peuvent faire pour s'en sortir. Ce sera juste après Lass, chanteur sénégalais qui a grandi dans un petit village de pêcheurs dans la banlieue de Dakar et ce titre Massamba.
Melo linga don demali au sayon xamo linga don ya ko sañ melal lu la neex waxal lu la neex demal fu la neex ya ko sañ ferago nga bëgg sa xilafa amago nga wedi kilifa naka ngay doxé naka ngay waxé naka ngay défé ya ko sañ ah ma samba dem na té munu ma ci dara té munu ma ci dé ah ma samba dem na té munu ma ci dara té munu ma ci dé Jër magné fo man nané bayiré wandé ya ko sañ goné gu ndaw nga xamago dara jang warna la ya ko sañ lima gisade mané yemna halé ilé dé mané yemna
Massamba, c'était Lass sur RFI. Clin d'œil à l'actualité au Sénégal, changement politique majeur pour la région tout entière avec l'élection de Bassirou Diomaye Faye. Nous y revenons dès la semaine prochaine dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, qui, en attendant, vous parle d'Europe.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Bruno Faure.
Dorothée Rouzet, chef économiste à la direction du Trésor français, Pamina Koenig, professeure à l'économie de Paris, et Ekram Bouptan, école d'économie de Paris également, sont nos invités à l'occasion du 12e printemps de l'économie au Conseil économique, social et environnemental. L'Europe, confrontée depuis quelques années à plusieurs chocs sévères, le Brexit, la pandémie de Covid, les questions climatiques, la guerre en Ukraine, l'inflation, le creusement des inégalités, j'en oublie peut-être, mais l'Europe qui aura fait front plus ou moins collectivement, en tout cas elle n'aura pas été inactive, Pamina Koenig, face à ces chocs tout de même très sévères et effectivement très resserrés dans le temps.
Oui, bien sûr. L'Europe n'aura pas été inactive du tout, et en particulier à l'intérieur, c'est-à-dire que la société civile également à l'intérieur de l'Europe se renforce. On voit que les Européens réfléchissent à la manière de faire en sorte de consommer des biens qui soient davantage, disons, parallèles et en accord avec leurs valeurs. Et c'est quelque chose de compliqué, parce qu'à partir du moment où on se rend compte que les entreprises qui nous vendent des produits qui sont fabriqués dans des conditions qu'on ne souhaite pas et qui ont des externalités, soit sur l'environnement, soit sur le marché du travail, mais la question se pose de savoir, voilà, comment est-ce qu'on fait pour, disons dans le jargon, internaliser ces externalités, vous voyez, pour les résoudre. Alors, la manière qui a été trouvée, c'est de se dire, bah, écoutez, on va en fait suivre le trajet de fabrication des biens, et puis on va identifier les entreprises qui sont responsables de cette fabrication, et on va leur donner l'opportunité de déclarer les risques. Donc ça, c'est récemment, la France notamment, vous avez vu la semaine dernière, a adopté une loi qui vient en supplément de la loi sur le devoir de vigilance. Donc cette loi-là, elle vise précisément les entreprises de la fast fashion, mais la France était quand même la première à développer une loi sur le devoir de vigilance. C'est-à-dire qu'on pointe du doigt, on renforce la société civile, on renforce notre besoin d'information sur ce qu'on consomme, et on rend les entreprises, les acteurs responsables de ce qu'ils font, même quand ça se passe à l'autre bout de la planète.
Donc une grande volonté exprimée aussi de relocaliser des activités sur le sol européen. Alors, ça n'était pas forcément évident il y a quelques années encore. Le Covid est passé par là.
Mais alors, la question de relocaliser, je pense qu'on a beaucoup souligné, même depuis le Covid, que relocaliser n'est pas un but en soi, parce qu'on est bien dans un cadre dans lequel on bénéficie tous du commerce international. Et d'ailleurs, dans les régions dans lesquelles la production bénéficie des exportations vers le reste du monde et vers l'Europe, eh bien, on a une opinion davantage favorable à l'ouverture, à la mondialisation. Donc, relocaliser n'est pas une fin en soi, mais bien sûr que c'est très intéressant et très important de faire attention à ce qui est quand même... Voilà, à ce qui est de l'industrie dans les secteurs dans lesquels la France a des avantages comparatifs, ou l'Europe.
Dorothée Rouzet, d'un point de vue macroéconomique, est-ce que, après tous ces événements violents, on peut dire ça, est-ce qu'on peut parler de résilience au choc de la part des Européens ?
Je pense que oui, et je pense que pour partie, on a été surpris par la capacité des différents acteurs européens à s'adapter, que ce soit du côté des ménages, des entreprises. On voit que face au choc de l'invasion russe en Ukraine, finalement, l'adaptation a été assez rapide en termes de consommer moins d'énergie, de consommer moins de gaz. Les entreprises se sont adaptées.
C'est la facture qui dirige.
Se sont adaptées. Oui, il y a eu quand même beaucoup de protection des ménages. Et je pense qu'il faut aussi voir que les acteurs privés européens sont tout à fait capables de s'adapter. Et ensuite, au niveau de la prise de décision en Europe, je pense qu'il faut, aussi saluer les avancées qui ont été faites en réponse à ces crises. Il y a quand même ce qui était peut-être des tabous ou des choses qui étaient jugées impossibles qui ont été décidées dans des temps assez records. Enfin, les crises, le Covid d'abord, la guerre en Ukraine ensuite, ont été des catalyseurs pour faire des choses comme l'endettement commun, comme le renouveau de la politique industrielle, que je pense, si on en parlait en 2019, on aurait jugé ça complètement impossible. Et ensuite, pour en réaction maintenant, pour vraiment réfléchir à comment être plus prêt face à d'autres chocs dont on ne sait pas d'où ils vont venir. Identifier quelles sont nos vulnérabilités dans nos approvisionnements. Effectivement, comme ça a été dit par Pamina Koenig, la solution n'est pas forcément de tout relocaliser, déjà de connaître nos vulnérabilités, de voir si on peut se diversifier, et donc d'être plus prêt. Et puis ensuite, le défi est aussi pour l'Europe de continuer à avancer peut-être aussi vite face à des défis de plus long terme et pas seulement à des chocs violents.
Sur les médicaments, en tout cas, ça a été un électrochoc. Ekram Bouptan.
Alors, la guerre en Ukraine, elle a aussi déplacé des personnes. Elle a déplacé des millions de personnes. Et pour une fois, en matière d'immigration, la réaction européenne a été exemplaire. Et surtout, on a assisté à la fois à une conception de politique qui a été efficace, une mise en œuvre parfaite, et des conséquences qui sont plutôt, à ce jour quand même, des conséquences plutôt positives. Donc grâce effectivement à cette coordination à l'échelle européenne, que ce soit à l'échelle de la Commission ou entre les pays européens, et aussi au niveau de la société civile, la réaction a été immédiate pour déclencher le mécanisme de protection temporaire qui a permis de laisser les Ukrainiens qui ont fui la guerre se répartir sur le territoire européen.
Ça veut dire qu'on a tiré les leçons de ce qui s'est passé en Syrie quelques années plus tôt, de la cacophonie qu'on avait eue à l'époque?
Je ne suis pas certaine qu'on a vraiment tiré la leçon à l'échelle européenne. Je pense qu'en fait, c'est un exemple qui montre que lorsqu'on veut, on peut y arriver. Ça veut dire qu'on peut gérer efficacement, d'une manière humaine, le déplacement de population suite à une guerre, lorsqu'on est en capacité de s'accorder collectivement.
Et on parlera tout à l'heure d'un point de vue économique, également de la volonté de développer des industries de défense. Le principal choc, comme pour le reste de la planète, aura certainement été la pandémie de Covid, un arrêt brutal de presque toutes les activités économiques. Résultat, un plan de relance européen doté de plus de 800 milliards d'euros. Mais comment a-t-il fonctionné et comment a-t-il évolué? On va voir ça avec Valentin Ledroit. Bonjour.
Bonjour Bruno.
Vous êtes journaliste au site internet touteleurope.eu. C'est un site qui fait de la pédagogie sur les questions européennes, qui traite l'actualité des 27. Comment les fonds du plan de relance sont-ils répartis? Il y a des prêts, il y a des subventions. Quels sont les critères?
Oui, alors la majeure partie du plan de relance européen est composée effectivement de subventions et de prêts à destination des États membres de l'Union européenne. Des subventions dont bénéficient tous les États membres, qui sont répartis en fonction de la taille de la population, du PIB, du taux de chômage et de l'impact économique de la pandémie sur les économies de chaque État membre. Et ensuite, on avait un montant de prêts qui était disponible et chaque État membre était libre de les demander ou non, dans une certaine limite, selon un pourcentage de son revenu national brut. Et au final, on a donc 13 pays qui ont demandé, enfin qui ont en tout cas contracté ces prêts. Et petite subtilité, contrairement à l'utilisation et à la distribution classique des fonds européens, là on a une ingénierie originale qui a été mise en place par l'Union européenne. Ce sont les États membres qui ont dû mettre en place des plans nationaux dans lesquels ils listaient des projets d'investissement et de réforme. Et ensuite, ils les réalisent au fur et à mesure et ils peuvent faire des demandes de décaissement à la Commission européenne qui vérifie que tout a bien été fait et procède au paiement.
Valentin Ledroit, qui sont les principaux bénéficiaires de ce plan de relance?
Alors, si on tient juste compte des subventions, on retrouve l'Espagne, l'Italie, la France et l'Allemagne, ce qui est assez logique compte tenu des critères qu'on évoquait juste avant. Maintenant, si on tient compte vraiment de l'enveloppe globale avec les prêts, on se rend compte que l'Italie et l'Espagne sont de très loin les plus gros bénéficiaires. L'Italie, c'est 190 milliards d'euros, donc une grande majorité de prêts. L'Espagne, c'est 160 milliards d'euros, donc voilà, une moitié de prêts également. Et assez loin derrière, en troisième position, on a la Pologne, avec 60 milliards d'euros, dont 35 de prêts. Alors, pourquoi cette différence avec simplement les subventions? La réponse, elle est assez simple, c'est parce que la France et l'Allemagne, par exemple, n'ont pas sollicité de prêts. Tout simplement parce que quand vous sollicitez les prêts via ce plan de relance européen, vous bénéficiez donc des conditions d'emprunt de la Commission européenne. Et voilà. Et pour la France et l'Allemagne, c'était pas jugé suffisamment intéressant de passer par ces canaux-là.
Alors, ce qu'il faut dire pour finir, c'est que l'utilisation de ce plan a été réévaluée avec le temps, avec les événements, par exemple, avec la guerre en Ukraine.
Oui. Alors, on peut considérer que le plan, il a été revu deux fois même. Une première fois en juin 2022, tout simplement pour tenir compte de l'évaluation en fait des critères économiques qui étaient pris en compte pour l'attribution des subventions. Et puis le gros changement, c'est surtout en juin 2023, le plan de relance européen s'est adapté au contexte évidemment de la guerre en Ukraine, et la Commission européenne a ajouté 20 milliards d'euros au titre de Repower EU, donc c'est son initiative pour accompagner en fait la sortie des énergies fossiles russes. Et à titre d'exemple, par exemple, le plan français a ainsi bénéficié de 2,3 milliards d'euros supplémentaires pour atteindre un peu plus de 40 milliards.
Merci à vous, Valentin Ledroit.
Merci.
Plan de relance, où en est-on? C'est le titre de votre article sur votre site touteleurope.eu. Dorothée Rouzet, l'évolution de ce plan de relance, des retards dans l'attribution de ces fonds à cause de la guerre en Ukraine?
Non, je pense pas que la guerre en Ukraine n'a pas retardé le décaissement du plan de relance. Donc, comme ça a été expliqué, elle a donné lieu à des ajustements pour inclure la partie Repower EU, donc la partie réponse énergétique avec des investissements qui permettaient de renforcer la sécurité énergétique, l'indépendance énergétique. Il pouvait aller de plus d'investissements dans les énergies renouvelables ou dans l'efficacité énergétique. Donc ça a permis de le compléter, mais ça n'a pas ralenti la mise en œuvre du reste du plan de relance. Ce qui est vrai, c'est qu'entre pays européens, il y a des rythmes de mise en œuvre qui sont assez différents d'un pays à l'autre. En France, on a plutôt été vite, hein, puisqu'on est à presque 60% des fonds qui sont déjà décaissés. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que ce plan, il a quand même globalement rempli ses objectifs et il continue à le faire, à la fois de manière immédiate après le choc Covid, pour amortir le choc et notamment continuer à soutenir les investissements, continuer à soutenir l'emploi. Dans le plan français, il y avait aussi beaucoup pour l'emploi des jeunes. Donc ça, c'était l'aspect très court terme. Pour aussi avoir une grosse composante de dépenses d'avenir. Donc là aussi, tous les pays avaient une proportion importante de dépenses pour la transition écologique, pour la transition numérique, pour l'innovation. Et puis enfin, favoriser la convergence entre pays européens, qui reste un objectif. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, par exemple, l'Espagne et l'Italie ont touché davantage. Elles avaient plus à investir, plus à rattraper en termes d'investissement. Et c'est quelque chose qui se poursuit jusqu'en 2026.
La réponse environnementale, on va en parler à propos de ce pacte vert, ce Green Deal, annoncé en 2019, solennellement, par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
Le pacte vert européen est d'abord notre vision d'un continent climatiquement neutre en 2050. C'est aussi pour atteindre cet objectif, une feuille de route très spécifique, 50 mesures pour 2050. Notre objectif est de réconcilier l'économie avec notre planète, pour réconcilier notre façon de produire, notre façon de consommer avec notre planète, et que cela concerne tous nos concitoyens.
Un Green Deal, un pacte vert annoncé par la Commission européenne, Pamina Koenig. C'est un plan industriel, mais c'est une course aux subventions aussi pour les entreprises.
Oui, il a fait débat ce Green Deal très récemment, lorsqu'on a reparlé du Mercosur, justement. Ça donne l'occasion, en fait, de souligner que très souvent, l'Union européenne met en place des politiques qui ont un double, voire un triple enjeu, une triple destination. C'est-à-dire que, par exemple, on demande aux agriculteurs de produire d'une certaine manière, de produire de manière à avoir des biens qui respectent la sécurité, la santé de nos consommateurs, mais on leur demande en même temps, et ça c'est un double objectif, d'avoir des modes de production qui respectent les paysages, qui embellissent notre environnement. Et donc c'est difficile effectivement à coupler avec ces exigences qui sont adressées à nos producteurs, mais qui ne sont pas adressées, parce que c'est difficile de le faire, aux producteurs qui sont à l'extérieur de l'Union européenne.
Face à l'IRA, l'Inflation Reduction Act américain, les subventions américaines aux industries vertes, est-ce que ce pacte vert est suffisamment ambitieux? Est-ce que l'ambition environnementale est encore prioritaire?
Alors, c'est
en
toute
Europe,
la question.
Quelques années après les annonces politiques.
Voilà, est-ce qu'on y arrivera? Est-ce qu'on ne détricotera pas trop le Green Deal? Parce que lorsqu'on a des façons de fabriquer des biens qui sont différentes, ben on a plusieurs manières de réagir. Soit on fabrique les normes ensemble, c'est-à-dire que voilà, on harmonise entièrement. Soit on reconnaît, comme l'a fait l'Union européenne, par la reconnaissance mutuelle, on reconnaît les normes des autres comme équivalentes.
Dorothée Rouzet, cette ambition environnementale, d'un point de vue budgétaire, est-ce qu'elle est encore là d'actualité, malgré les contraintes économiques, malgré les contraintes militaires, tout simplement, liées à la guerre en Ukraine?
Oui, je pense que l'ambition est intacte. Je pense que il y a deux types de contraintes. Il y a les contraintes budgétaires, effectivement. On estime au niveau français qu'il nous faut au total à peu près 110 milliards d'euros d'investissement annuel supplémentaire d'ici à 2030 pour atteindre nos objectifs de baisser les émissions de 55% d'ici à 2030. Alors si on enlève les investissements qu'on n'aura plus besoin de faire, par exemple les voitures thermiques ou les chaudières au fioul, on est plutôt de l'ordre de 60 milliards par an. Donc c'est-à-dire en gros 2 points de PIB. Et au niveau de l'Europe, les estimations qui existent sont à peu près de cet ordre. Donc évidemment, il y a des besoins massifs. mais on n'a pas vraiment le choix. Et si on attend pour les faire, ça sera encore plus cher, soit en termes de dommages, soit en termes de faire des investissements encore plus rapides à partir de situations plus dégradées. Donc il s'agit plutôt de faire de la place, je dirais, dans les finances publiques pour ces investissements. Et l'autre contrainte, c'est celle de l'acceptabilité. Et je pense que les mouvements récents, y compris des agriculteurs, ont mis l'accent là-dessus. C'est-à-dire qu'on a fixé des ambitions européennes très ambitieuses, pour le coup. Ensuite, il faut que le chemin pour y parvenir, que ce soit un mix de tarification du carbone, de subventions, de réglementation, de mesures d'accompagnement pour ceux qui en ont besoin pour pouvoir faire la transition, nous donne quelque chose qui est acceptable pour ceux qui sont les plus exposés.
Éco d'ici, éco d'ailleurs.
Sur RFI.
L'Europe qui parle donc de plus en plus ouvertement d'économie de guerre. Au début du mois de mars, la Commission européenne a publié une stratégie pour l'industrie de défense. Écoutez à ce propos Charles Michel, le président du Conseil européen.
Pendant des décennies, ce projet européen a été fondé sur la prospérité, sur la coopération économique, fondée sur des valeurs partagées, avec l'impression que la sécurité et la défense étaient dans les mains principalement de l'OTAN, qui est évidemment une force et une alliance substantielle pour garantir la sécurité transatlantique. Mais nous avons, avec ces décisions prises aujourd'hui, la volonté de renforcer le pilier européen.
Dorothée Rouzet, développer des industries de défense, est-ce que c'est un moyen pour développer la croissance quand on est un peu en panne de croissance comme les Européens, historiquement ?
Je pense que ce n'est pas forcément assez gros au niveau macro pour faire un relais de croissance. Et c'est pas pour ça qu'il faut développer les industries de défense. Il faut développer les industries de défense parce qu'on a évidemment les enjeux de sécurité qui reviennent sur le sol européen, parce qu'on a besoin d'amplifier le soutien à l'Ukraine. Et c'est aussi le sens de l'initiative de la Commission de ce qui existe déjà au niveau européen pour faire des achats en commun, pour voilà, avoir des coopérations industrielles en termes de défense. Puis après, c'est aussi beaucoup du ressort, évidemment, des dépenses nationales de défense. Mais je dirais, l'enjeu, c'est d'abord un enjeu de sécurité. Ensuite, c'est vrai que l'industrie de la défense, quand on regarde l'industrie de la défense américaine, pardon, elle a pas mal de retombées économiques parce qu'elle contribue beaucoup à des innovations qui ensuite servent l'économie civile. Internet, le GPS, etc., à l'origine, ont été financés par les industries de défense. Donc c'est vrai qu'il y a des retombées sur l'ensemble de l'économie, mais je dirais que la priorité, elle se situe d'abord du côté de l'Ukraine, avant d'être une question économique sur ce plan-là.
RFI, les voix du monde.
Venons-en à la politique migratoire à l'échelle européenne. C'est un des grands débats de ces élections. L'immigration indispensable face aux pénuries de main-d'œuvre, on l'a dit, et au vieillissement de la population. Un exemple avec la Grèce qui vient de mettre en place un titre de séjour pour les travailleurs sans papier, mais avec des conditions très strictes. Explication de notre correspondant à Athènes, Joël Bronner.
3 ans, voilà la durée du nouveau type de carte de séjour que la Grèce vient récemment de mettre en place. Ce titre de séjour, non renouvelable, s'adresse à des personnes sans papier qui peuvent déjà justifier d'une promesse d'embauche. Cette carte reste ensuite valable uniquement si la personne qui la détient continue à travailler. En tout état de cause, comme le souligne le communiqué officiel des autorités grecques, ce permis ne donne droit ni au regroupement familial, ni à la résidence permanente, ni encore à la naturalisation, comme cela peut être le cas en Allemagne, spécifie encore le document. Dimitris Kéridis, le ministre des Migrations, justifie cette mesure en expliquant qu'il y a de nombreux emplois que les Grecs n'occupent pas, comme c'est aussi le cas chez les Italiens ou les Espagnols. Le ministre conclut sa comparaison avec les voisins européens en ajoutant « on ne fait pas exception à la règle en refusant d'aller travailler dans les champs ».
Un nouveau titre de séjour en Grèce, nous dit notre correspondant Joël Bronner, Ekram Bouptan. Voilà, il y a une urgence. Hein.
Ça revient au point qu'on a abordé tout à l'heure. Ça veut dire que tous les pays européens sont confrontés effectivement à des pénuries de main-d'œuvre. Cette pénurie de main-d'œuvre, elle existe pour des postes très qualifiés. Et pour cela, dans tous les pays, on a des voies de migration régulières qui ont été mises en œuvre. Donc des titres de séjour dédiés et des voies de migration qui sont facilitées. Sauf que en Europe, on a considéré qu'effectivement, qu'il n'était pas nécessaire ou indispensable de mettre en œuvre des voies de migration régulières pour des les métiers faiblement qualifiés pour travailler dans les champs, pour occuper des postes dans le cadre des services à la personne. Et malheureusement, l'impératif économique, il est là. Ça veut dire que ces secteurs existent, que les entreprises comme les particuliers, ils ont besoin de personnes qui occupent ces emplois-là. Et on n'a pas d'autre solution, effectivement, soit d'accepter d'avoir des travailleurs qui exercent dans des conditions irrégulières, qui sont exploités et qui sont soumis parfois à de la traite des êtres humains, soit effectivement, on régularise leur situation pour qu'ils puissent occuper des emplois formel dans le cadre d'un contrat de travail.
On a parlé de ce vieillissement général de la population, c'est le cas en Europe, c'est le cas dans plusieurs autres pays du monde, au Japon par exemple. Conséquence pour le financement des systèmes de santé, pour le financement des retraites, là aussi il y a une urgence économique.
Il y a un choix économique à faire. Ça veut dire effectivement, la taille de notre système de protection sociale repose sur un système de répartition. Et donc, globalement, c'est les actifs qui vont financer les dépenses de santé et de retraite des personnes qui sont plus âgées. Ce système de répartition nécessite effectivement un ratio de population en âge de travailler qui soit relativement important pour que ça soit soutenable à long terme. On peut faire le choix, effectivement, du Japon et accepter et ne pas recourir à une immigration plus importante et travailler plus longtemps, accepter des taux de croissance économique qui sont faibles, un ralentissement économique généralisé, et accepter un système de retraite et un système de santé qui est beaucoup moins favorable. Soit on peut faire l'exemple, en fait, le choix de l'Allemagne, ça veut dire de renforcer une politique d'immigration, d'accueillir à la fois les personnes qui sont en besoin de protection, l'accueil des Syriens, faire le nécessaire pour les intégrer, notamment sur le marché du travail, et aussi s'ouvrir à une immigration de travail plutôt qualifiée pour soutenir notamment la croissance de la population, donc la croissance de l'économie.
Pamina Koenig.
Juste sur la compétence de l'Union européenne sur les migrations, la raison pour laquelle l'Europe ne parle pas d'une seule voix, c'est tout simplement parce que les migrations ne sont pas une compétence exclusive de l'Union européenne. L'Union européenne en a certaines, comme par exemple de signer des accords de commerce. Maintenant, libre aux pays membres et aux États membres donc de décider d'en faire une politique au niveau de l'Union européenne.
Quand on parle de ces questions migratoires, quand on parle de ces relations commerciales entre l'Europe et les autres parties du monde, on sent qu'on est dans une époque où les Européens se questionnent sur leur place dans le reste du monde. On a parlé de la concurrence avec les Américains, on a parlé des questions de production venues d'Asie notamment. Est-ce qu'on va, par rapport à ces dernières années, vers une Europe plus ouverte sur le monde qu'elle ne l'était auparavant? Ou est-ce qu'on est plutôt dans une époque où les Européens vont se refermer sur eux-mêmes et céder au protectionnisme?
Il est important, c'est exactement à ce moment-là qu'il est important de souligner que l'Europe a basculé d'un équilibre dans lequel elle pensait encore en fait, que ses valeurs pouvait se diffuser dans les autres pays et devenir partagé vers un équilibre dans lequel l'Union européenne comprend que ce n'est pas forcément le cas, que d'autres puissances émergent, que la Russie, que la Chine prennent des places importantes sur la place internationale, également dans la définition de leurs valeurs. Regardez par exemple les exigences différentes de consommateurs dans différents pays. Les entreprises européennes se rendent compte que lorsqu'elles vont vendre en Chine, les exigences sont différentes. Il est hors de question de dire en Chine que vous êtes fier de ne pas avoir utilisé du coton qui vient du Xinjiang.
Alors à chaque problématique, il y a un plan, ou presque, pour être dans le match. Les Européens veulent que leurs économies aient accès au marché sur les autres continents. Ils veulent aussi contribuer au développement des pays partenaires émergents et en développement. C'est le plan Global Gateway. Le député européen allemand Reinhard Bütikofer devant les parlementaires à Strasbourg.
Le plan Global Gateway a été annoncé en 2021, puis il a été bloqué suite à des divisions internes au sein de la bureaucratie bruxelloise. En 2023, des progrès importants ont été réalisés sur la gouvernance, sur les efforts pour clarifier les priorités.
2024
doit devenir l'année où Bruxelles et les États membres en feront la pièce maîtresse de l'offre de l'Union européenne pour un nouveau partenariat avec les peuples et les pays de ce qu'on appelle le Sud global. Sans une telle offre, notre ambition géopolitique se transformera en sujet de discussion superficielle et vide de sens.
L'Europe avec un regard sur le Sud global, 300 milliards d'euros d'investissement entre 2021 et 2027 dans le numérique, l'énergie, les transports, dans les systèmes de santé, d'éducation, de recherche. Dorothée Rouzet, que peut-on attendre d'un plan effectivement européen destiné à développer le reste de la planète ?
Je pense que ce plan, ça fait partie en tout cas de ce que l'Europe doit faire dans ses relations avec le reste du monde et notamment avec le Sud global, c'est-à-dire effectivement d'inventer des partenariats. Donc là, il s'agit de 300 milliards d'euros, dont faisant en grande partie levier sur l'investissement privé, pour investir dans les infrastructures, dans l'énergie, le climat, la santé, l'éducation, le numérique, donc dans des secteurs prioritaires. Et en même temps, j'irais selon un modèle qui respecte les valeurs européennes, c'est-à-dire aussi pour promouvoir des clauses sociales, environnementales, voilà, des manières de construire ces partenariats qui soient conformes aux valeurs européennes. Donc je pense que ça représente aussi un nouveau moyen pour l'Europe de nouer des relations avec les pays notamment en Afrique, puisque la moitié du plan est pour l'Afrique.
Ça donne du sens au projet européen, Ekram Bouptan, développer économiquement les pays de départ de l'immigration. C'est a priori moins d'immigration en Europe à l'arrivée.
Je pense que l'Europe a besoin effectivement de développer ses coopérations, et notamment avec le continent africain, que ce soit sur les sujets économiques et aussi sur les sujets migratoires. Mais le développement économique passe aussi par plus de mobilité des étudiants internationaux, plus de mobilité des travailleurs. Et donc, il faut arrêter de voir l'immigration comme étant effectivement un flux de personnes désespérées qui cherchent finalement à survivre en arrivant en Europe. La plupart de cette immigration-là, ce sont des personnes qui essayent d'améliorer leur perspective économique. Et donc, on a des Français qui vont partir aux États-Unis, comme on va avoir des Américains qui vont venir en France. Et effectivement, on va avoir des Africains qui vont choisir l'Europe ou les États-Unis pour améliorer leur perspective économique. Mais effectivement, on a besoin de plus de coopération et plus de développement économique.
Les 6 et 9 juin, les Européens vont donc voter pour ces élections aux enjeux majeurs. On arrive quasiment au terme de cette émission. Quelques mots encore, Ekram Bouptan, qu'est-ce que vous attendez de ces européennes? Qu'est-ce que vous attendez de la campagne qui débute maintenant et qui va se poursuivre jusqu'en juin?
Alors, mon espoir, que cette campagne se focalise vraiment sur les questions qui concernent les Européens et sur les enjeux majeurs, et que ça ne tourne pas à une élection pour et contre plus d'immigration en Europe, telle que les extrêmes essayent effectivement de placer leur débat sur ces questions-là, qui détournent un petit peu l'attention des questions qui sont plus fondamentales à mon sens.
C'est à votre tour, Pamina Koenig, quelques mots sur vos attentes?
Je vais suivre Ekram. Je pense que c'est effectivement un moment où on attend davantage d'Europe. C'est important, c'est symbolique. Et c'est important aussi de souligner que parfois on ne se rend pas compte de l'effet que ça fait de vivre dans un environnement où tout va quand même très bien.
Dorothée Rouzet, la macroéconomiste Dorothée Rouzet.
Oui, ou plus généralement, je vais partager l'espoir que cette campagne permette aussi de parler de quel est l'apport de l'Europe pour les citoyens, comment on définit notre modèle dans un monde où on a parlé un peu de nouveaux blocs géopolitiques où l'Europe doit trouver sa place, et quel est le modèle européen qui soit ancré dans nos valeurs, qui reste ouvert, qui reste compétitif, mais qui soit aussi durable, et d'avoir le débat sur quel est notre modèle européen plutôt que sur d'autres thèmes sur lesquels il peut s'égarer.
Merci à vous trois. Dorothée Rouzet, chef économiste à la direction du Trésor français, Pamina Koenig et Ekram Bouptan de l'École d'économie de Paris, nos invités à l'occasion du 12e printemps de l'économie du 2 au 5 avril, c'est au Conseil économique, social et environnemental à Paris, de très nombreux débats sur tous les grands sujets internationaux que l'on vient de traiter ici dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Merci à vous tous de nous écouter. Guillaume Munier, notre réalisateur, merci à Pierre-Pascal Boulanger, l'organisateur de ce printemps de l'économie. à la semaine prochaine. Dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, nous serons avec deux invités prestigieux sur l'économie africaine. Je ne vous en dis pas plus. Un journal tout de suite sur RFI. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien.
Cette émission vous a été proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.